Tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Oui, papa, tu voudrais pas mourir un peu pour rencontrer Jésus? Et puis des passages qui me revenaient en tête, tels que l'apôtre Paul le dit, c'est de loin le meilleur d'être avec le Seigneur. Mais répondre à cette question pour soi-même. Et puis, alors je lui dis, tu sais, oui, elle m'a dit, parce que ça va être le plus beau jour de notre vie. Oui. J'ai dit, mais tu sais, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, on peut. Il y a vous, il y a les gens qui ne connaissent pas Jésus. Il y a l'Église. Et pendant qu'on chantait, je me disais, pour certains d'entre vous, je vous connais depuis peut-être 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on se côtoie. 20 ans. D'autres, 6, d'autres, 10. Vous imaginez, on a passé 20 ans, pour certains d'entre nous, on a passé 20 ans ensemble. On est mariés déjà depuis un certain nombre d'années, nous aussi. On se côtoie, je côtoie mon fils depuis 15 ans. C'est pas rien. C'est pas rien, hein. Et puis, on n'est pas pressé parce qu'on a un message à partager. Et c'est vrai que souvent, quand on me demande. Alors, je voulais marquer le coup un petit peu par rapport à ce premier dimanche, on va dire, de rentrée dite scolaire, hein, puisque là, nos enfants vont reprendre le chemin de l'école cette semaine. Et je voulais marquer le coup, et jusqu'à hier soir, je pensais à quelque chose qui ferait suite un petit peu à tout ce que nous avons vu sur la communion fraternelle, sur la paix, sur la grâce que nous déployons les uns vis-à-vis des autres, et l'amour que nous voulons déployer les uns vis-à-vis des autres. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas aborder quelque chose que j'aborde d'une manière assez systématique quand on me demande de parler d'évangélisation. Les gens sont étonnés parce que, en fait, j'arrive et je parle de ça. La koinonia, qui est la communion fraternelle. Et les gens se disent, mais mince, on leur a demandé de venir parler d'évangélisation et ils nous parlent de communion fraternelle. Et il faut parfois un petit moment pour qu'ils arrivent à réaliser que tout commence par la communion fraternelle. Tout commence là, par ce que nous vivons les uns avec les autres. Dans la joie, dans la paix, dans la douleur. C'est ce que nous vivons. Nous vivons des moments qui ont marqué notre vie cette semaine. À jamais, grands et petits. La communion fraternelle. Il y a l'Église, nous, ou l'Église en général, et puis il y a la société dans laquelle on vit. Et une partie de la réalité de l'Église chevauche la société dans laquelle on vit. Une partie de la réalité de la société dans laquelle nous sommes immergés. Nous sommes immergés dans cette société-là. Et la communion fraternelle, la koinonia en grec, est avant tout fondée sur la mise en pratique de l'amour de Dieu. L'amour témoigne de notre foi, mais pas n'importe quel amour. C'est pas je t'aime, tu m'aimes. Non, l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est le signe de notre sanctification, de notre appartenance à Christ, de notre mise à part en qualité de peuple de Dieu. Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On peut éteindre juste là. Merci. Vous voyez? L'Église, la société, aimez-vous les uns les autres, à ceci tous reconnaîtront. Le lieu où l'Église chevauche la société, il est là. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la communion fraternelle n'est pas un style de vie, finalement, qui permettrait aux chrétiens de bien vivre ensemble. C'est beaucoup plus que ça. C'est un moyen que Dieu utilise pour se révéler au monde, pour nous éduquer à la sainteté, pour se révéler au monde, tous reconnaîtront, et pour nous éduquer à la sainteté. Et dans ce sens, ben, nous faisons goûter à ceux qui nous entourent ce que nous vivons, nous, déjà. Parce que si nous ne le vivons pas déjà, nous, ben, on ne peut pas le faire goûter à ceux qui nous entourent. Comment tous peuvent reconnaître que nous sommes disciples de Jésus si nous vivons cet amour de façon solitaire ? Dans la pratique, comment se décline finalement la communion fraternelle dont l'amour est la base ? Et la Bible nous présente 4 fois 7 exigences, on va dire. On pourrait les comparer avec ce que vivent nos contemporains. On va les voir, ce n'est pas un message que je vous donne ce matin, mais un rappel, on va voir un petit peu ce que la Bible nous enseigne au niveau de la communion fraternelle. Il y a déjà, au départ, 7 exigences qui sont, on va dire, positives. Positives. C'est celle-là. C'est ce qu'on fait. Saluez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. On a une agape chez la famille Estève, après le culte. Ils nous accueillent. Soyez bons les uns envers les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. C'est bien que parfois je te dise sur quel domaine je lutte. Je sais qu'il y en a qui le font avec moi. Et parce que je peux prier, parce que tu peux prier pour des choses qui sont difficiles pour moi de vivre et de... Tu luttes avec des choses, c'est bien de les partager. C'est bien que tu ne sois pas seul à porter ça. Parce qu'on a tous des choses plus ou moins cachées, hein, avec lesquelles on lutte. Et ça sert à ça, l'Église. Pas pour se juger. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on a du mal à confesser nos péchés les uns aux autres. Pourquoi ? Parce qu'on a peur du regard de l'autre sur notre vie. On a peur qu'après, la personne utilise ce qu'elle lui a dit contre nous. Et l'Église, pardonnez-vous réciproquement. Soumettez-vous les uns aux autres. Mettez-vous sous la protection. Soumettez-vous, c'est on se met sous la protection les uns des autres. Je me protège, tu me protèges, je te protège. Je ne te pousse pas dans le précipice. Je ne souligne pas que ce qui est négatif dans ta vie, surtout avec d'autres. Mais je te protège, je te relève, je te mets en valeur. Ça, ce sont 7 exigences qui nous aident à nous entendre et à nous comprendre les uns les autres. Mais bien sûr, ça démarre avec ce que je vous disais la semaine dernière, dans la mesure où nous avons compris que les autres sont au bénéfice de la grâce autant que ce que nous le sommes nous-mêmes. Et vous voyez, je vous donnerai ces versets si vous voulez. Je vous enverrai le dossier. Ensuite, la communion fraternelle nous pousse, en tout cas nous exhorte, à éviter de nuire. Et là, on est, ben voilà, ne vous jugez pas les uns les autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne parlez pas mal les uns les autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Ne vous portez pas envie les uns aux autres. Ne vous provoquez pas les uns les autres. Ne vous mordez pas les uns les autres. Tous ces passages sont dans la Bible, la parole de Dieu. C'est quand même fantastique que la Bible, elle nous donne de manière tellement précise la façon dont nous pouvons vivre l'Évangile et être des serviteurs, comme a dit Manu ce matin, et comme ça a été souligné dans ce passage que nous avons lu, serviteurs de la bonne nouvelle. Voilà de quelle manière nous pouvons être des serviteurs de la bonne nouvelle. Peut-être que cette année, on pourrait méditer sur ces passages. Alors, ça c'était des exigences d'ordre un peu négatif. C'est bien plus que le bisou-bisou, hein, comment tu vas C'est finalement un style de vie qui nous demande, en tout cas qui nous exhorte à rester connectés à Jésus, qui demande à ce que nous soyons toujours volontaires pour lui ressembler, qui nous demande à persévérer, à avoir de la patience, vis-à-vis des autres. Parce qu'on a souvent plus de patience vis-à-vis de nous-mêmes que vis-à-vis des autres. Mais on ne s'imagine pas le Seigneur, la patience qu'il a avec nous-mêmes. Ça, c'est pour éviter. Alors après, il y a sept exigences qui sont en rapport avec la croissance mutuelle. Parce que je veux que tu grandisses et tu dois vouloir que je grandisse. Nous voulons nous exhorter à grandir les uns et les autres. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Veillez les uns sur les autres. Pas utiliser le scanner, comme j'ai dit la semaine dernière, hein, pour regarder ce que les autres font pas ou devraient faire, ou font mal, ou feraient mieux de ne plus faire. Ou... Non. Veillez. Ça veut dire que quand je vois mon frère et que je distingue quelque chose qui ne va pas, je vais déjà prier pour lui, mais je vais l'aimer. Ça ne va pas être un moyen pour moi de le descendre. Ça va être un moyen pour moi de prier pour lui et de prendre soin de lui. Et peut-être, dans le cas échéant, aller le trouver et lui dire, écoute, mon frère, je suis inquiet. Il y a quelque chose qui m'inquiète. C'est tout. Rassure-moi. Si tu as besoin de moi, je suis là. Dans l'amour. Dans la paix. Dans la grâce. Édifiez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. Instruisez-vous les uns les autres. Entretenez-vous les uns les autres. Par des psaumes, des cantiques. Ayez soin les uns des autres. J'aime ce « ayez soin les uns des autres ». Et puis après, il y a sept autres exigences qui sont liées au service, c'est-à-dire au service mutuel, au fait que nous sommes serviteurs, déjà de la bonne nouvelle de Christ, mais nous sommes serviteurs les uns des autres. Et là, on est dans ces sept, on va dire, exigences en rapport avec un service mutuel. Soyez les serviteurs les uns des autres. Priez les uns pour les autres. Consolez-vous les uns les autres. C'est ce qu'on a essayé de faire cette semaine et qu'on va continuer à faire. Envers ceux qui nous sont chers et qui vivent des épreuves tellement douloureuses. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Mettez au service des autres le don reçu. Lavez-vous les pieds les uns aux autres. Peut-être pas dans un sens, on va dire, pratique, mais dans un sens symbolique. Être au service des autres. Vous savez, ce que nous venons de voir là, imaginez maintenant, un instant, l'impact dans la société. Quand vous allez inviter des personnes au milieu de nous qui ne connaissent pas Christ et que nous allons vivre ces choses-là. Waouh. Parfois on dit il faut prêcher l'évangile en trois points. Il est mort sur la croix, il est mort pour nos péchés, repentez-vous, si vous n'acceptez pas Jésus, vous allez en enfer. Voilà. Pour certains milieux, voilà, si tu ne fais pas ça, tu n'as pas prêché l'évangile. C'est une manière de voir les choses. Moi, je pense qu'il n'y a pas besoin de prêcher l'évangile en trois points quand on le vit comme ça. Parce que quand on est prêt à donner sa vie pour les autres, on illustre ce que le Christ a fait pour nous. On a simplement à le dire. Tu sais, je suis là, quand tu me dis merci, je suis là parce que le Seigneur a fait pareil pour moi. Et il fait encore tellement plus. Le peu que je fais, franchement, c'est des miettes à côté de ce que le Seigneur fait pour moi. Et le Seigneur nous dit que toute personne qui entend ces paroles que je dis, ne les met pas en pratique, ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. En quoi l'Évangile répond aux crises? En quoi l'Évangile répond à la crise par laquelle notre monde est en train de passer? En quoi l'Évangile répond au racisme, à la xénophobie? En quoi l'Évangile répond aux difficultés dans le couple, aux relations familiales? En quoi l'Évangile répond au deuil? En quoi l'Évangile peut répondre aux jeunes de notre génération qui ont du mal à trouver un boulot, qui ont du mal à voir l'avenir de manière positive, parce que ça semble assez noir, assez négatif? Et tout ça, ça s'adresse à nous, avant de s'adresser à nos contemporains. Qu'est-ce que l'Évangile propose? Des valeurs? Des valeurs? Des attitudes? De la générosité? De l'amour? Qu'est-ce que l'Église propose? L'Évangile. Nous sommes serviteurs de l'Évangile. En le vivant et en le proclamant. Racisme, en quoi les chrétiens peuvent alimenter cette peur? Parce qu'on est très fort pour ça, hein, pour s'envoyer des emails, hein, avec les vidéos, etc. Hein, pour alimenter la peur de l'autre. Hein. On est au top, hein. Demain, ça sera moins bien qu'aujourd'hui, ça c'est clair. Quelle réponse on donne à cet état d'esprit qui est généralisé, hein? Trouver les coupables. Qui c'est qui est coupable? Le président Hollande? Sarko? Obama? Que dit l'Évangile sur l'origine du mal? L'origine du mal, c'est pas Hollande, ni Sarkozy. Hein? C'est le péché. Désigner des ennemis ou rétablir une forme minimale d'harmonie sociale. Qu'est-ce que l'Église propose? On va pointer du doigt l'un et l'autre. Et je crois qu'on en est là. Premier commandement, tu aimeras Dieu. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la mission, allez, faites de toutes les nations des disciples. Revenons à la koinonia. C'est intéressant de voir comment la communion fraternelle finalement reprend tout. Parce que aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc ce lieu où chevauche l'Église dans la société, aimez Dieu de tout son cœur. Ça, c'est l'Église. Nous sommes là pour aimer Dieu de tout notre cœur. Et nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Et là, ça se passe encore ici, tout en allant dans le monde. On va dans le monde. Et si on vit quelque chose ici, ben, automatiquement, ça se déverse dans la société dans laquelle on vit. Automatique. Et j'aimerais nous encourager à ça. Pour que, peut-être cette année, quand on va faire une soirée cinéma ou un week-end d'église, pourquoi pas inviter les gens qu'on connaît et qu'on puisse se dire, mais voilà, ils vont vivre ce que nous vivons. Et sincèrement, hein, je dis ça ce matin, non pas pour nous dire qu'on ne le fait pas, parce que je crois qu'on le fait. Sincèrement, je crois que depuis quelques mois, on vit vraiment quelque chose de fort dans notre église locale. Et peut-être que ça nous aide à placer des mots et peut-être à parfaire un petit peu ce que... Voilà, il y a des aspects peut-être de notre vie d'église qu'on a oublié ou qu'on ne se souvient pas, comme se confesser les péchés les uns aux autres. On peut peut-être parler avec des gens avec qui on se sent à l'aise et dire, écoute, tu sais, ça serait bien, tu pouvais prier pour moi, pour cette... ça serait sympa. Peut-être s'ouvrir, peut-être se saluer pour ceux qu'on a dû peut-être un peu plus de mal, apprendre à connaître l'autre, etc. On peut envisager plein de choses pour cette année qui arrive. Et puis, je suis sûr que ça va se déverser dans la société. Et c'est pareil pour tout ce que nous venons de dire, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi ? C'est Dieu a tant aimé le monde, nous, qu'il a donné. Nous avons des choses à donner. Pas uniquement entre nous, mais nous avons des choses à donner aux gens autour de nous. Ne serait-ce que l'espoir. Ne serait-ce qu'un avenir pas bouché. Ne serait-ce que des éléments pour construire leur vie. On a des choses à donner. Et je vais vous dire même mieux. Même au niveau des valeurs, on a l'Évangile à donner. C'est vrai qu'on veut que les gens soient sauvés. On veut que les gens aillent au ciel. Mais quand bien même ils n'accepteraient pas l'Évangile, mais quand bien même ils prendraient ce qui leur arrange finalement, de nos valeurs, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'aime bien ça, peut-être que c'est à propos en ce moment, mais devenir comme un petit enfant, je ne sais pas si j'avais pas déjà fait ça avec vous une fois. Vous vous souvenez ou pas, non ? Devenir comme un petit enfant. Un enfant, c'est quoi ? Ben, un enfant fait confiance à ceux qu'il aime. Il répond aux manifestations de leur amour. Il fait confiance à Dieu, le chrétien. Et on sait qu'on est aimé de lui. Nos enfants savent que nous les aimons. Ils le savent. Presque, je dirais, on n'a même pas besoin de leur prouver. Ils le savent. Parce qu'on est là, on est présent. Et puis, les enfants sont animés d'une curiosité. Ils sont curieux par nature. Ils ont soif d'apprendre, ils sont réceptifs. Ils touchent tout, ils veulent tout voir, tout entendre, tout connaître. Ils découvrent. Peut-être, parfois c'est ce qui me manque à moi, la soif de connaître encore mieux Dieu. Parce que j'ai l'impression que ça y est, je le connais. Être réceptif à sa parole. Peut-être, je ne prends pas assez de temps à méditer sa parole. Ce qu'il dit, ce qu'il propose, comment l'histoire de l'humanité s'est déroulée. J'ai l'impression de tout savoir déjà. Et peut-être que ça m'empêche d'être curieux, de découvrir encore d'autres choses qui pourraient me faire du bien. Et je crois que spirituellement, nous avons tout à apprendre. Quand même. On en sait, mais on a encore beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, dans le passage que nous avons lu ce matin, c'est à cette mesure-là que nous connaîtrons encore mieux, tous connaîtrons encore mieux Dieu. Notre vie spirituelle nous apprend à connaître Dieu, parce que nous vivons avec lui, nous apprenons à le connaître. Un enfant accepte ce qu'on lui dit. Ça dépend jusqu'à quel âge. Il cherche à comprendre. Oui, en général. Mais il n'a pas de faux raisonnement, en tout cas, un enfant. La question de ma fille, elle est pertinente. Je ne savais plus quoi répondre. D'un côté, j'ai envie de dire oui, d'un côté, j'ai envie de dire non. Nous croyons Dieu. Nous acceptons. Les enfants acceptent avec simplicité l'aide qu'on leur offre. Ils ne veulent pas payer quoi que ce soit en retour. D'ailleurs, ils savent qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas payer, c'est nous qui payons. Et c'est pareil avec notre Père Céleste. Qu'est-ce que nous pouvons payer en retour ? Est-ce que nous pouvons payer en retour de son amour par notre bonne conduite ? Je ne pense pas. On ne peut rien rajouter à son amour. Il ne nous aime pas plus, il ne nous aime pas moins. Lire, étudier la Bible, pour que le Saint-Esprit nourrisse notre vie. Un enfant de Dieu est humble, il sait que sans Christ, on ne peut rien faire qui puisse être à la gloire de Dieu, quand bien même nous ferions des choses super géniales. On sait que ça ne vient pas de nous-mêmes. Ça nous remet à notre place. On persévère dans notre apprentissage de la vie chrétienne. Il faut du temps. Il faut du temps, non ? Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il faut du temps. Observateur, on est imitateur de Jésus-Christ, on prend modèle sur les frères et sœurs, de la communauté. Pas sur tous les aspects. On sait très bien, chacun se connaît plus ou moins. Ça, comme je disais au début, ça fait 20 ans qu'on se connaît. On connaît un peu nos qualités, nos défauts. On peut prendre modèle sur les qualités des uns et des autres. Les défauts, bon, ben... Et ça nous fait progresser. Et l'église, c'est le lieu de l'apprentissage. C'est pas le lieu où le dimanche matin, je viens me faire du bien en écoutant un bon message, une bonne prédication. C'est le lieu de l'apprentissage, on apprend. Parce qu'on se côtoie, parce qu'on vit quelque chose ensemble. Il y en a, hein ? L'engagement dans notre apprentissage au sein de la communauté. Ne soupçonne pas le mal et ne cherche pas à le faire. Il n'a pas encore conscience du bien et du mal, un enfant, même s'il lui arrive d'être désagréable, hein, à cause du péché qui agit en lui, parce que nous naissons dans le péché. Mais nous voyons positivement nos semblables, nous ne cherchons pas à leur faire du tort en quoi que ce soit. Un enfant, volontairement, il ne cherche pas à faire du tort. Quand il fait du tort, c'est parce que c'est dans ses gènes, parce qu'il naît avec ça. Quand il va piquer la pelle à son copain dans le bac, c'est pas parce qu'il dit « je vais lui voler sa pelle hein, », mais c'est, il ne fait pas du tort volontairement. Un enfant aime partager les découvertes qu'il fait avec ceux qui l'entourent. C'est vrai ça. C'est vrai. Et des fois, malheureusement, j'ai dit à mes enfants « non mais c'est bon, hein, tu m'en as déjà dit 10 fois ça ». Et dans l'église, parfois, on est un peu de la même manière. Il y en a qui sont tellement enthousiastes quand ils ont découvert quelque chose, qu'ils en parlent à tout le monde, et puis qu'ils t'en parlent, et puis que, tu vois, et puis tu es là, j'ai envie de dire, mais tu m'as dit ça déjà il y a une semaine. Tu découvres toujours la même chose, hein, toutes les semaines. Mais ça lui fait du bien. Et c'est important que nous ayons ce niveau de partage. Dur, je reconnais, dur. Mais bon, on met le barème là et puis on fait ce qu'on peut, hein, n'est-ce pas ? Hein ? N'est-ce pas ? Se mettre à la disposition du maître, se laisser renouveler dans son entendement, se soumettre à l'enseignement du maître, renoncer à soi-même, considérer les intérêts des autres, se faire serviteur de tous, être prêt à tout accepter. Ça, c'est l'Église parfaite, c'est pas la nôtre. Hein ? Et c'est le chrétien parfait. C'est pas moi. Mais on reconnaît que finalement, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt pas, ben il ne porte pas de fruits. Il faut qu'il tombe en terre et qu'il meure. Et nous sommes tous à un stade plus ou moins avancé de ce grain de blé qui tombe en terre et qui petit à petit se fait de moins en moins d'illusions, que ce soit dans la vie de couple... ou que dans la vie d'église, ou que dans la vie de famille, ou que dans quelque domaine que ce soit. Quand on est un enfant, on veut un vélo, puis quand on a 18 ans, on veut une voiture, et puis le vélo, on ne le regarde plus. Hein ? Finalement, la vie nous apprend à renoncer, finalement, à certaines choses. La vie elle-même. Le Seigneur nous apprend, et puis la vieillesse est là pour ça aussi. Elle nous apprend aussi à renoncer à certaines choses qu'on faisait avant. On ne peut plus faire les marches de la même longueur. On ne peut plus vivre les choses comme on les vivait quand on était plus jeune. Et plus on prend de l'âge, et bien plus ben, on est obligé de renoncer par la force des choses. Juste quelques principes inversés pour terminer. Ça, je vous l'avais déjà donné. Le temple, c'est nous. La mission passe avant la tradition. On voit mal, hein ? Je pense que vous voyez mal de là. Hein ? L'autre est plus important que moi. Je sers Jésus, je fais des disciples, pas des adhérents. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite par rapport au principe inversé dans la communion fraternelle. C'est que tout est inversé dans notre société. Pour ça que je parle de communion fraternelle quand je parle d'évangélisation. Parce que les gens sont méfiants dans notre société. Nous devrions être dans la confiance. Les gens, on est entouré d'orgueil. Les gens mettent leur orgueil dans leur situation professionnelle, dans leur compte en banque, etc., dans leur statut social. Mais on n'en est pas là. Nous sommes dans l'humilité. La société et le péché détruisent. Nous construisons. Et j'ai essayé de donner l'inverse de ce qui se, de ce que, voilà. Alors c'est vrai que, sincèrement, quand je regarde à droite, parfois, je me reconnais aussi. Mais ça nous aide à voir un petit peu que l'Église, c'est ça. Être chrétien, c'est là. Mais malheureusement, nous sommes des chrétiens en chemin. Donc, parfois, nous sommes compliqués. Hein? Complications, au lieu d'être simples. Nous sommes extrémistes. Parfois, nous basculons dans l'intégrisme. Nous mettons les lois pour les autres. On devrait faire comme ceci et comme cela. On est pécheur, on est intempérant, on manque de contrôle de soi. Je manque de contrôle de moi-même. Et j'ai besoin de me souvenir que ma vie avec le Seigneur va m'apporter de la maîtrise, va m'apporter de la tempérance. Ma relation avec lui va faire changer ce qui est à droite en ce qui est à gauche. Et on a ça de partout. Dans tous les domaines qui constituent notre vie. La transparence, duplicité, partage, égoïsme, esprit de famille, esprit de clan. N'est-ce pas un des aspects que nous voulons travailler dans notre église locale, cet esprit de famille? Je ne dis pas qu'on va arriver à... Voilà, c'est... Parce que le danger serait de tomber dans une sorte de club, hein, ou vraiment de famille où on ne rentre pas. Ce n'est pas ça qu'on veut, hein, je ne pense pas. Hein. Mais cet esprit de relation, cet esprit de d'écoute, cet esprit d'amour, cet esprit de partage, une famille. Et, vous voyez, le défaitisme. Parfois, j'ai tendance à être défaitiste. C'est un peu comme quand je vois mes enfants ou mon fils qui n'arrive pas au bout d'un certain temps à me ramener un 15 en maths et qui bloque à 12. Je dis, mais c'est pas vrai ça. Et lui, il a besoin que je lui dise, ah et oh, tu peux y arriver. Hein. C'est bon, hein, c'est pas parce que tu as eu 3-8, 3-10, tu peux arriver à 15. Mais lui, il aurait tendance à tomber dans le défaitisme. Et on peut être défaitiste dans l'Église. On peut voir le côté où on a l'impression que ceux qui nous entourent ne progresseront jamais, tellement ils progressent doucement. Mais on se dit, mais c'est pas possible. Lui, elle, non, c'est même pas la peine d'y compter, quoi. Mais non.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Vous voyez? Le défaitisme, la tristesse, le refus de l'autorité, le laisser-aller, la tristesse, la mélancolie. Tu es triste et tu es dégoûté de la vie. Et franchement, tu cultives cette tristesse. Et puis à la fin, mais franchement, c'est invivable. Manque de persévérance, l'insécurité, la crainte. Notre église, où elle va? Comment on va faire cette année? Pétard, l'année passée, on s'est loupé. Hein. On s'est loupé plusieurs fois. Hein. Puis il y a quelques semaines, on a distribué le vin en pain le pain. Alors là... Là, on a fait tout faux. Laisse tomber une église comme ça, mais franchement, ça ne vaut pas le coup. Hein. Personne n'a pensé à garder le vin, et puis après, le pain passé, bon, bref. Insécurité, indifférence, insouciance. On a du pain sur la planche. Notre monde va si mal parce que depuis Adam, l'homme aime sa vie dans ce monde. Nous sommes déconnectés de Dieu, nous aimons notre vie. Et c'est vrai que j'aime ma vie, au point que quand ma fille me pose une question comme elle m'a posée, j'ai du mal à lui répondre. Parce que finalement, et des fois il y a des réponses qu'on donne, qui nous ne nous satisfont pas, mais elles satisfont nos enfants. Encore une question que ma fille m'a posée il y a quelques semaines. Elle m'a dit, papa, j'ai peur de ne pas croire. Et j'ai dit, si tu ne crois pas, c'est parce que tu crois. Et hier soir, elle me disait, elle pensait à des personnes que je verrai après, qui me posait cette question. Elle m'a dit, tu l'as dit à telle personne? Tu l'as dit la réponse? Parce que, en fait, s'ils se posent des questions, ils doutent de ne pas croire. En fait, le fait de douter de ne pas croire, c'est parce qu'ils croient. Et ça l'a, ben, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais ça lui a fait du bien, quoi. En tout cas, mes amis, nous sommes là pour témoigner, non seulement que c'est possible avec Christ, c'est possible avec Christ de continuer, malgré que ce soit difficile, la vie. C'est possible avec Christ de dépasser nos préjugés, parce que c'est possible avec Christ. C'est possible de témoigner de notre foi et que les gens se convertissent, découvrent qui est Jésus, parce que Christ est avec nous, parce que nous le vivons. Nous sommes le corps de Christ, la communauté bâtie par Christ. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole, la Bible. Seigneur, je te prie pour que chacun de nous puisse, en cette année, peut-être redécouvrir le goût de la lecture, le goût de s'adresser à toi, de prier, d'entretenir cette relation avec toi. Seigneur, tu sais où chacun de nous en est, dans sa marche avec toi. Tu sais ce qui bloque, tu sais ce qui nous permettrait d'avancer. Mais Seigneur, nous te prions ce matin pour que tu nous visites dans chacune de nos vies individuelles, afin que tu nous aides à vraiment à regarder à toi, au-dessus du mur parfois des douleurs, des difficultés, des soucis qui nous assaillent. Je te prie pour nos enfants, je te demande de les bénir en cette rentrée, Seigneur, les petits et les plus grands. On te prie pour que tu les protèges du doute, protège de la méchanceté, protège de ce monde qui, Seigneur, ne les attire pas vers toi, bien au contraire, les pousse loin de toi. Seigneur, on les remet entre tes mains en te demandant de les garder et les protéger. Amen.